Chapitre 12. Siméon se gâte décidément. Nous ferons visite à Siméon dans la petite chambre modeste qu'il occupait, rue Neuve. Les rues Neuves sont toujours très vieilles, comme le pont Neuf, au troisième étage d'une maison fort peuplée. Un lit étroit, simple et propre, des rideaux de cretonne fleuris aux deux petites fenêtres, trois chaises antiques et vermoulues d'aspect vénérable, mais un peu rajeunies par leur housse de cretonne assortie aux rideaux, une table de toilette, une autre table plus petite, chargée de livres et de cahiers dans l'embrasure, une drôle de vieille armoire triangulaire dans un coin, et sur les murs, deux lithographies fort médiocres représentant les batailles de Napoléon. De plus, la vue d'un toit fréquenté par des moineaux, une pointe de clocher, le sommet des arbres d'une promenade voisine. Siméon avait la jouissance de tous ses biens, le nécessaire et le superflu, pour la somme de 20 francs par mois, ce qui faisait le gros total de 240 francs par an. Il avait résolu le problème de se nourrir pour 1 franc par jour, préparant lui-même, sur une veilleuse, sa tasse de café du matin, sa tasse de thé du soir, achetant un gros pain, un morceau de fromage blanc ou 2 sous de pommes de terre frites dans les petites boutiques de cette vieille rue Neuve. Il dînait à midi dans une pension bourgeoise à la ration et 3 fois par semaine se contentait de légumes et de soupe. Oui, Siméon avait accompli sa première année d'études comme un anachorète et comme un jeune sage. Quelques répétitions pas trop mal payées lui fournissaient son argent de poche. Les 1 000 francs que sa commune lui allouait pour la première année avaient suffi et au-delà à l'entretien journalier, aux frais d'études, aux achats de livres et de quelques instruments de physique pour faire des expériences particulières. Mais la seconde année s'annonçait plus dure car la commune, suivant les conventions faites et signées, ne donnait plus que 500 francs. Mademoiselle Cornélie se privait pour envoyer chaque mois 25 francs à son neveu et Siméon lui avait dit aux dernières vacances « Chère tante, je suis honteux de te saigner ainsi, mais ça ne durera pas, je trouverai des leçons. Je connais des étudiants roumains qui ont besoin de polir leur français. Ils ne paient pas très cher, étant à peu près aussi pauvres que moi, et ils ne se frottent pas aux vrais professeurs à cacher. Je leur ferai des propositions. » Tante Cornélie avait pleuré d'attendrissement sur les vertus frugales de son cher neveu, mais elle continuait à lui adresser, chaque dernier du mois, son mandat de 25 francs. Si je parle chiffre, c'est que je ne peux faire autrement. Siméon, au moment de notre visite, est en plein dans les chiffres et dans les plus désespérants de tous, ceux qui ne veulent pas se rencontrer, ceux qui laissent, entre la queue du doigt et la tête de la voix, une effrayante lacune. Ah oui, Siméon a fait des bêtises. Que dirait Ferdine si elle savait tout? D'abord, il a perdu du temps, beaucoup de temps. Les relations mondaines et les études, cela s'arrange mal ensemble, et les soirées qu'on passe dans les salons de Madame Gaillère, ou bien au concert pour accompagner ces dames, les après-midi où l'on n'a pas de cours et qu'on emploie à flâner dans les serres du jardin d'acclimatation, avec des jeunes personnes peu occupées, on aurait pu les remplir d'une manière moins coûteuse et plus profitable. Les étudiants roumains, las de recevoir de petits billets, empêchés ce soir, désolés, ne seraient pas libres jeudi, ont trouvé un autre répétiteur. Mais cela n'est rien encore. L'horreur permanente du malheureux Siméon, le cauchemar, le vampire, qui lui suce énergie, gaieté et sommeil, s'appelle dette. Oui, il a trouvé moyen de faire des dettes en si peu de temps. Voici comment. Le secrétaire communal, qui correspond avec lui pour sa petite pension, est un homme précautionneux. Défiant de la jeunesse, il n'envoie que 125 francs à la fois, trimestre après trimestre. Mais c'est aussi un homme économe, et pour éviter les frais d'un mandat, devançant la date du 1er octobre, il remit à Siméon lui-même, contre un bon reçu, au dernier jour des vacances, la petite somme qui ne devait être suivie d'aucune autre jusqu'en janvier. Et Siméon Taubert, ce jeune homme sérieux et raisonnable, en qui sa pauvre tante Cornélie avait une si entière confiance, Siméon dépensa tout son avoir en quelques semaines. Comptez un peu, ô vous qui savez ce que coûte un smoking, veston habillé, disait le tailleur, se porte même le soir pour un concert ou une réception pas trop cérémonie. des chaussures élégantes, des gants, un chapeau de feutre fin gris-perle que mademoiselle Jeanne daigna approuver d'un petit signe de tête, et des mouchoirs, et des mouchoirs, et des mouchoirs. Siméon rougirait d'avouer quel supplice furent pour lui les mouchoirs, les bons et bravos mouchoirs qu'avait ourlé tante Cornélie. Il fallut en acheter d'autres, petits et minces, dont le coin marqué d'un fil de couleur put sortir avec avantage de la poche du veston. Tout le trimestre y passa, et les premiers 25 francs de mademoiselle Cornélie fondirent à la dépense du pain quotidien, et les seconds aussi, et les étudiants roumains disparurent avec leurs 5 francs par semaine, et tout s'embrouilla, et l'avenir devint noir comme une histoire de brigands. Siméon n'osait plus compter, réduisait sa nourriture au strict nécessaire et prenait vraiment mauvaise mine. Parfois, d'un élan de jeune courage, il se disait « Bah, tout s'arrangera au 1er janvier quand je toucherai mon trimestre. » Et il pensait à tant d'étudiants, à tant d'artistes qui ont vécu de misère pendant leurs études et sont devenus des hommes distingués. Mais comment vivre jusqu'au 1er janvier ? Les 25 francs de sa tante, ce n'était pas même de quoi manger chaque jour. Il avait 2 mois d'arriéré pour sa chambre, une quinzaine à sa pension, et il présentait la figure d'un coupable aux 2 honnêtes bourgeoises dont l'une le nourrissait et l'autre le logeait. Les leçons semblaient fuir. Tous les jeunes idiots en quête d'un répétiteur, qui leur fit entrer de force dans la cervelle quelques bribes de grammaire latine, étaient pourvus depuis la rentrée. En Amérique, un étudiant pauvre fend du bois, rabote des planches. Chez nous, on a des préjugés. La seule ressource paraissait être ne plus manger. Mais encore, si l'on plongeait dans l'avenir, le prochain trimestre était presque dévoré d'avance. Siméon préférait de beaucoup ne pas plonger dans l'avenir, espérant toutes sortes de choses impossibles, et il se consolait en ouvrant parfois l'armoire qui renfermait son costume irréprochable. Avec ces habits-là, on ose du moins se montrer dans le monde, et l'on ne meurt pas, à mon âge, pour jeûner un peu. Ah, Siméon, Siméon, avoir 1 sou de plus que sa dépense fait l'homme indépendant. Avoir 1 sou de moins que sa dépense condamne l'homme à des bassesses. Le mandat de tante Cornélie venait d'arriver. Le facteur avait empilé sur la table 5 écus, petites piles mais bien jolies, que son possesseur regardait rêveusement. Tout à coup, la porte s'ouvrit et Madame Martin, la bourgeoise, entra. « Je ne vous ai pas entendu frapper, » dit Siméon. « Non, je l'aurais fait trop doucement. »« Elle n'a pas frappé du tout, » pensa-t-il. « Elle prend des libertés parce que je lui dois 2 mois et même 3 à l'heure qu'il est. » Les yeux de Madame Martin étaient fixés sur les 5 pauvres écus, tout seuls et mal à l'aise au milieu de la table. Siméon n'avait pas eu le temps de les couvrir d'un journal ou d'un cahier. « Je suis bien aise, » dit Madame Martin, « de voir qu'il vous rentre des fonds. Une pauvre veuve a besoin de son argent, Monsieur Taubert, surtout quand elle fait une avance pour le blanchissage chaque quinzaine. » Le blanchissage encore. Siméon l'avait oublié dans ses comptes. « J'espère qu'il vous sera possible de me payer en plein. » poursuivit-elle, allongeant sa main vers la table, et Siméon fit un brusque mouvement, comme pour défendre son pauvre trésor. « Désirez-vous que je vous remette à l'instant une note détaillée du blanchissage ?»« Je me vois obligé, madame, » dit Siméon en toussant, « de vous demander encore un délai. Mon trimestre arrivera en janvier. »« Et cet argent-là, pour vous amuser alors, pour faire le jeune prince ?» « Non, madame, pour manger, et du pain très sec encore. »« Ce n'est pas à moi, dit avec aigreur madame Martin, qu'il faut chanter cette chanson-là. Je suis allée voir madame Boudinet, chez qui vous prenez votre dîner. Vous êtes arriérée d'une quinzaine. » Siméon baissa la tête. « Oh, quelle horrible humiliation !»« Et permettez-moi de vous dire, monsieur Taubert, que vous menez une conduite pas convenable du tout. Je ne sais trop quelle compagnie vous suivez, ni si elle est trop haute ou trop basse pour vous. Ma fille assure que vous frayez dans le grand monde. Vous avez tort. Le semestre d'avant, vous étiez un brave jeune homme, régulier à payer, et vous regardiez les gens en face. À présent, vous filez dans l'escalier comme un chat qui a mauvaise conscience. Qu'avez-vous à répondre? Voyons, qu'avez-vous à répondre? demanda en se campant devant lui cette bourgeoise qui n'était point méchante, mais qui entendait qu'on lui payât son dû. « Rien, madame, » fit Siméon, et il appuya son front sur ses deux mains pour cacher une rougeur de honte. « Voilà 25 francs. Je ne recevrai pas un centime de plus jusqu'à la fin décembre. Vous pouvez les prendre si vous voulez. » Madame Martin ne les prit pas et s'en alla, frappant la porte s'il faut tout dire. Alors Siméon calcula qu'en se privant de viande tous les jours et même de légumes de temps en temps, il aurait de quoi offrir un bouquet à Madame Gaillère. Il ne pouvait s'en dispenser, ayant dîné chez elle plusieurs fois, et à Ferdine un petit présent de Noël.